Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, chapitre 7, et nous lirons à partir du verset 36. Nous continuons donc notre série que nous avons appelée « Rencontre avec Jésus ». Nous allons avoir ici une rencontre, on va dire une double rencontre. Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » La dernière fois, nous avons vu la rencontre de Jésus avec Matthieu, avec le collecteur d'impôts. Ils ont dit que Matthieu représente le symbole d'une vie d'impiété. Quelqu'un qui ne vit que pour s'enrichir, que pour lui-même. Et Jésus l'appelle. Et la vie de Matthieu est transformée. Lui, le collecteur d'impôts qui ne vivait que pour lui-même, devient un disciple, devient quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus-Christ et qui invite, rappelez-vous, qui a invité ses anciennes connaissances, ses amis à venir, à rencontrer le Seigneur Jésus. Et cela avait fait grincer les dents des pharisiens, de ces religieux qui ne peuvent pas accepter la grâce. Et qui voient Jésus avec ces gens et ils disent, ben, voilà, Jésus avec des gens de mauvaise vie, mais et notre religion, notre obéissance à la loi, est-ce qu'elle vaut, elle ne vaut rien? Et Jésus les condamne. Jésus leur dit, par exemple, nous avons vu cela la dernière fois, apprenez, allez et apprenez. En fait, vous n'avez rien compris. Même l'Ancien Testament parle du fait que Dieu prend plaisir dans les sacrifices, et prend plaisir dans la miséricorde plutôt que dans les sacrifices. Ici, donc, la septième rencontre. Jésus, tout d'abord, Jésus et la femme pécheresse. C'est la rencontre principale. Et cette rencontre souligne cette même différence entre deux catégories de personnes dans le monde. Il y a des personnes qui sont amenées à reconnaître leur péché, à confesser leur péché, et qui connaissent le pardon de Dieu et manifestent l'amour pour Dieu. Il y a aussi l'autre catégorie de ceux qui ne reconnaissent jamais leur péché et ne connaissent pas le pardon de Dieu et ne manifestent aucun amour pour Dieu. Et on voit cette différence ici aussi dans cette rencontre de Jésus avec la femme pécheresse. Mais tout d'abord, premier point, les personnes impliquées dans notre histoire. Et la première personne, bien sûr, c'est le pharisien nommé Simon. Premier mot pour les enfants. Simon, le pharisien, a invité Jésus chez lui pour un repas. Or, on sait qu'il y avait déjà eu un petit peu de tension entre Jésus et les pharisiens suite aux remarques que Jésus avait déjà faites. Et donc, cette rencontre avec le pharisien est quelque part surprenante que le pharisien l'ait invité. Simon avait sans doute des questions et il voulait étudier de près cet enseignant qui enseignait d'une autre manière que les autres, qui avait un impact dans la société. Mais cette rencontre est rapidement bouleversée. Et ce qui se passe devient plutôt quelque chose de déplaisant pour Simon. Versets 37 et 38. « Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. » Simon voulait voir Jésus. Et quand on lit ce passage, on peut retirer en fait deux choses concernant son attitude. Il, premièrement, cherchait à savoir ou avoir la preuve que Jésus était un prophète, quelqu'un d'exceptionnel. Et la deuxième chose qu'on pouvait retirer de ce passage, c'est que l'hospitalité de Simon laisse à désirer. C'est ce que Jésus va souligner dans les versets 44 à suivant et suivant, lorsqu'il s'adresse à Simon et il parle de l'attitude de la femme en opposition à l'attitude de Simon. Donc voilà, ici Simon, un pharisien qui n'avait pas invité Jésus pour l'adorer, deuxième mot pour les enfants. Il n'avait pas invité Jésus pour l'adorer, pour avoir une communion avec lui. Il l'a invité pour l'évaluer, pour le tester, pour voir si ce qu'on disait de lui était vrai, pour l'examiner. La deuxième personne dans notre histoire, c'est la femme. Et son attitude est radicalement différente. Elle est venue poussée par son amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Elle est décrite comme une femme pécheresse, et le terme vraiment veut dire que c'était une pécheresse notoire. Tout le monde savait qu'elle avait une vie de débauche, et beaucoup de commentateurs se disent qu'il s'agit sans doute d'une prostituée. Et à l'époque, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand quelqu'un organisait une réception, un banquet, quelque chose de spécial, c'était presque une journée porte ouverte. C'est-à-dire que n'importe qui passait pouvait entrer et voir ce qui se passait, voir qui était là, qui était invité et qui était présent dans la maison. sans pour autant prendre part, mais on pouvait rentrer et voir ce qui se passait. Mais voilà, cette femme, et on peut admirer son courage de cette femme, de cette pécheresse notoire, tout le monde savait, tout le monde connaissait sa vie. Et elle rentre dans la maison d'un pharisien. On ne peut pas trouver à l'époque quelqu'un de plus strict par rapport à la loi. Et voilà cette femme qui rentre dans la maison de ce pharisien, poussée par son amour pour le Seigneur Jésus-Christ, comme on va le voir. Et la porte, non pas un vase d'huile d'olive standard, mais un vase de parfum très coûteux, troisième mot. Très coûteux, c'est-à-dire avec un grand prix. Et son intention était sans doute d'oindre la tête du Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose de très apprécié, comme le Seigneur le souligne. Il dit aux pharisiens, tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête. Dans un pays où il fait très chaud, la peau, et on le sait nous-mêmes, on utilise des pommades pour soulager un peu la peau quand on a été au soleil, parfois même en préparation. Et c'était quelque chose d'apprécié quand quelqu'un rentrait à la maison, de mettre un peu d'huile pour soulager cette peau qui a été sous la chaleur de la journée. Et voilà cette femme qui apporte non pas un vase d'huile standard, mais un vase de parfum. Et à l'époque, vous le savez sans doute, mais on n'était pas assis à table comme aujourd'hui, mais on était allongé. On était allongé sur le côté, le coude nous maintenait la personne, et avec l'autre bras, on prenait les aliments qui étaient sur la table, qui étaient au milieu. Donc on avait la table et les gens étaient autour, si c'était une table ronde ou alors si c'était en long, les gens étaient alignés. Et donc, il était facile pour cette femme de venir et de se tenir au pied de Jésus. C'était quelque chose de très facile. Et voilà qu'elle se présente et ses émotions la submergent. Elle est bouleversée parce qu'elle se trouve en face de son Sauveur. Elle se trouve en face de son Sauveur. Elle se tint derrière, verset 38, elle se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Ses émotions sont intenses. Elle prend soin de lui, elle ne pense qu'à lui. Qu'est-ce qui amena cette femme dans la maison du pharisien? La réponse, il me semble, est évidente. C'est qu'elle a trouvé dans le Seigneur Jésus, quelqu'un qui l'attire, quelqu'un qui accueille des pécheurs tels qu'ils sont. Elle a sans doute entendu parler de lui. Elle a peut-être été même touchée par son enseignement alors qu'il était dans la ville. Mais voilà une femme qui n'a connu que le mépris. Une femme qui a été utilisée puis rejetée, mais une femme qui trouve le réconfort d'être dans la présence de Jésus, de savoir que voilà, là il y a un homme en quel elle peut avoir entièrement confiance. Voilà un homme qui n'allait pas l'utiliser, mais au contraire un homme qui allait lui apporter la bénédiction. Il n'est pas étonnant donc que ses émotions débordent. Voilà un homme qui n'allait pas la traiter comme les autres hommes, qui la rejetaient, sauf quand ils en avaient besoin pour leur plaisir personnel. Cette femme a vu que Jésus est différent. Il l'a attiré. Quatrième mot pour les enfants. Il l'a attiré, il a captivé son cœur, il a capturé son cœur. Et elle trouve dans le Seigneur Jésus-Christ la vraie signification de l'amour agapé. Cet amour qui vient de Dieu, un amour qui est pur, un amour qui est bon, un amour qui est sécurisant. Elle est attirée à lui. Comme je dis, il y a deux catégories de personnes dans le monde, et c'est ce que ce texte souligne. Il y a le religieux qui est froid, qui est distant de Jésus, alors qu'il est même autour de la table, qui est distant. Mais il y a le pécheur, comme cette femme qui est attirée à Christ et qui voit en lui quelqu'un qui accepte même le pire des pécheurs. Et cette femme exprime son amour pour lui. Le deuxième point, le deuxième grand point, est le pharisien et Jésus. Et on a donc la réponse du pharisien. Imaginez un peu la scène. Imaginez la scène. D'un côté de la table, on a le religieux formaliste qui se plaît dans son apparence de suivre toutes les exigences de la loi, qui est satisfait de lui-même et de ce qu'il fait. Et de l'autre côté de la table, on a le Seigneur Jésus qui est relax, qui permet à cette femme de manifester son amour en lui lavant les pieds. Et on lit au verset 39, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Il y a ici une double condamnation. Tout d'abord, la première, c'est que le pharisien qui voit ce qui se passe conclut que Jésus n'est pas un prophète. Il ne discerne pas qui est cette femme, selon lui, bien sûr. Mais la deuxième chose, c'est que les pensées du pharisien rejoignent ce que Jésus dit un peu plus haut, verset 34. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Voilà ce pharisien qui regarde et qui juge selon l'apparence. Et la réponse du Seigneur Jésus-Christ, elle est pleine d'ironie, parce qu'il montre qu'il connaît, il sait ce qui se passe. Et il sait mieux que toute chose. Et en plus, le pécheur que Jésus va mettre en évidence ou va révéler la vraie nature de son cœur, ce n'est pas cette femme, mais c'est le pharisien, c'est Simon. Et Jésus va raconter cette parabole que nous avons à partir du verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Et ici, deux choses. Tout d'abord, il y a une déclaration. Et cette déclaration, c'est que dans ce monde, il n'y a qu'un type de personne. Les personnes qui ont une dette envers Dieu. Paul le dira par exemple en Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Bien entendu, il y a des différences dans l'amplitude du problème, comme le souligne la parabole. Mais la réalité est que tous les deux étaient endettés et tous les deux n'avaient aucun moyen de payer leurs dettes. C'est la réalité du péché universel. Cinquième mot pour les enfants. C'est le péché universel. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a qu'un type de personne. Et il n'y a qu'un salut qui est offert aux personnes, qui est offert aux pécheurs. C'est ce que Jésus dit dans la parabole, mais beaucoup rejettent cela parce qu'ils n'acceptent pas cette réalité. Ils n'acceptent pas cette réalité que nous révèle la parole. Il y a un type de personnes, des personnes qui sont endettées envers Dieu. Mais dans ce type unique de personnes, il y a deux catégories. Il y a les personnes, les pécheurs qui reconnaissent leurs conditions, qui confessent devant Dieu leurs péchés et qui viennent à Jésus, sixième mot pour les enfants. Ils viennent à Jésus. Il y a l'autre catégorie des pécheurs qui ne le font pas parce qu'ils ne se voient pas comme pécheurs. Parce qu'ils ne sont pas les objets de la grâce de Dieu et ils ne réalisent pas qu'ils ont une dette envers Dieu. Ils ne connaissent pas le salut, septième mot pour les enfants. Mais c'est la déclaration du péché universel. Tous ont péché, un seul type de personne. Et deuxièmement, l'observation que l'on peut retirer de cela, c'est que ces deux personnes, comme j'ai dit, avaient une chose en commun. Elles étaient endettées, mais il y avait une différence dans l'importance de leur dette. Versets 42 et 43, il leur remit, l'un devait 500 deniers, l'autre devait 50, 5, pardon, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, ils leur remirent à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et l'observation, en fait, est celle-ci. C'est que notre affection pour celui qui nous pardonne est calquée sur la taille de la dette que nous lui devions. C'est plus nous réalisons la grandeur de la dette, plus nous réalisons que la dette que nous devions à Dieu est immense, huitième mot, plus grande sera la manifestation de notre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Jésus veut dire ici dans cette parabole. Huitième mot pour les enfants était le mot immense. Plus nous réalisons que la dette est immense, plus notre amour, plus la manifestation de notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ sera grand. C'est ce que le Seigneur veut souligner dans cette parabole. Ce que Dieu recherche, ce que Dieu aime, c'est notre gratitude, notre amour. La manifestation de son amour, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans la lettre de Jean, de notre amour pour lui, parce que lui nous a aimés en premier. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés. Jésus enseignera cela, par exemple, en Matthieu 22, versets 37 et 38. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement. Mais nous l'aimons, comme le dira Jean, parce que lui nous a aimés, le premier. Et nous l'aimons parce qu'il nous donne l'esprit, son esprit, qui nous permet de l'aimer et de l'aimer encore davantage. Troisième grand point, ce que Jésus enseigne donc aux pharisiens. Il y a trois points qui soulignent ici ce que Jésus dit et son enseignement qu'il donne et qui montre la relation entre la foi, la vraie foi, cette foi qui sauve, et l'amour pour Dieu. Tout d'abord, le point A, c'est que l'amour pour Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ sont inséparables neuvième mot. L'amour pour Jésus-Christ et la vraie foi, la foi qui sauve, sont inséparables. Jésus le souligne ici, verset 47. « C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Verset 50. « Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Cette femme a été pardonnée, ses péchés ont été pardonnés, non pas parce qu'elle a lavé les pieds de Jésus, non pas parce qu'elle a versé le parfum d'un grand prix, mais elle a été sauvée comme tous les pécheurs sont sauvés, c'est-à-dire par grâce, par le moyen de la foi, dixième mot. Éphésiens 2, versets 9 et 10. Cette femme n'a pas été sauvée par les mérites de son amour, mais par l'œuvre de Jésus-Christ, en qui elle croit, par la foi. Mais la foi en Jésus-Christ et l'amour pour Jésus-Christ sont si proches, si intimement liés, que Jésus déclare « Ses nombreux péchés, verset 47, ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » La foi et l'amour regardent à la même personne. Ils regardent à Christ. L'œuvre de Jésus-Christ est si grande que nous ne pouvons qu'être remplis d'un amour pour lui, en réponse à son amour pour nous. Et nous regardons à la croix, onzième mot pour les enfants. Nous regardons à la croix où nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ s'est livré pour moi. Nous y regardons par la foi, mais nous y regardons aussi par amour, parce que nous voyons là la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, comme nous avons lu tout à l'heure. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier, 1 Jean 4, 19, ou Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous ne sommes pas sauvés par notre amour pour Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu pour nous, qui se manifeste dans le don de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est allé à la croix pour nous, qui a payé le prix de notre dette. Et la foi regarde à Jésus-Christ comme son sauveur. L'amour regarde à Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Il n'y a qu'un seul type de chrétien. Celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. L'amour et la foi sont inséparables. La deuxième chose, point B, c'est que l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ est aussi un test, de douzième mot, de la foi. Et c'est un peu dans ce sens que le Seigneur Jésus-Christ s'adresse ici au verset 44, et suivant, il dit en se tournant vers Simon, en se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Jésus ne veut pas dire que Simon avait une petite foi qui lui a apporté un petit pardon. Non, Simon n'a pas de foi. Et c'est pour ça qu'il ne manifeste aucun amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Lui, comme j'ai dit tout à l'heure, invite le Seigneur Jésus-Christ non pas pour avoir une communion avec lui, non pas pour l'adorer, mais pour l'évaluer. Or, nous avons lu tout à l'heure dans la lettre de Jean, les versets 7 et 1 Jean 4, versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Si l'amour est un test de la foi, comment est-ce que je peux savoir que j'aime vraiment Dieu? Et c'est Spurgeon qui fait le diagnostic en deux questions, en posant deux questions. La première, c'est est-ce que je pense à Dieu? Est-ce que je pense au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que dans le calme, dans un moment calme de la journée, alors que je mets toutes les occupations de la journée de côté, tout ce qui peut me préoccuper, est-ce que dans le calme, mes pensées se tournent vers Christ? S'il est l'objet de mon amour, à ce moment-là, elle se tourne vers Christ, de manière naturelle. Et la deuxième chose, c'est est-ce que je fais quelque chose pour Dieu? Pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dira à ses disciples, par exemple, en Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'amour par nature donne et agit. Est-ce que nous évitons le péché parce que nous savons que cela déplaît à Dieu? Est-ce que nous étudions la parole de Dieu? Nous avons chanté tout à l'heure, et nous l'avons souligné, que cette parole qui nous nourrit. Voilà l'homme religieux, voilà ce pharisien qui étudiait la parole, qui la lisait, qui était là pour défendre la parole, mais il n'aimait pas le Seigneur Jésus-Christ. Il ne croyait pas dans ce que la parole disait. Et dans ce qu'elle dit encore aujourd'hui. Il ne croyait pas à cette vérité concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et malgré toute son apparence de piété, malgré toutes ses bonnes œuvres, il ne connaît pas le salut. Il ne connaît pas le salut. Non, l'amour et la foi sont d'une part inséparables, mais l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ est aussi un test de la foi. Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur Jésus-Christ? Et petit c, l'amour apporte aussi une assurance à la foi. 13e mot, l'amour apporte une assurance à la foi. Nous sommes souvent accablés par nos erreurs, par nos manquements, par nos infidélités. Mais nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Nous réalisons que trop souvent, il y a des pensées mauvaises. Il y a même des pensées, nous savons, qui déplaisent au Seigneur Jésus-Christ. Mais en contrepartie, il y a aussi des pensées concernant notre demeure éternelle, concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ et concernant notre Sauveur. Nous réalisons que nous ne sommes pas parfaits. Mais nous voulons vivre pour plaire au Seigneur, nous avons chanté tout à l'heure, nous voulons lui offrir notre corps, notre cœur et notre corps. Nous aimons le peuple de Dieu, nous aimons la parole, nous aimons l'Église, nous aimons la compagnie des enfants de Dieu plus que la compagnie du monde, parce que leur Dieu est notre Dieu, parce que leur Sauveur est notre Sauveur. Et si on peut dire cela, même avec une foi chancelante, nous savons que nous sommes pardonnés. Nous l'aimons parce qu'il a mis son amour en nous. Et nous manifestons cet amour parce que nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés de nouveau. Cet amour que nous avons pour le Seigneur Jésus-Christ, cet amour qui se manifeste envers les uns et les autres, et en particulier envers le Seigneur Jésus-Christ, nous apporte cette assurance, apporte de l'assurance à la foi. 4e grand point, qui l'aimera le plus? Ou on pourrait poser la question pour nous, comment l'aimer encore plus? Et la réponse est illustrée dans cette histoire avec les deux personnes. Ce n'est pas le pharisien qui aime Jésus. Le pharisien, l'homme religieux, il imagine que sa dette, elle est insignifiante, elle est petite. Ça ne vaut même pas la peine de parler de cette dette, elle est tellement petite que non, on n'a pas besoin de parler de pardon. Non, ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ sont comme cette femme. Ils savent, ils connaissent l'ampleur de leur dette. Ils savent que leur dette envers Dieu est immense. Ils savent que par nature, ils sont pécheurs. Et ils mesurent en contrepartie, en conséquent, ils mesurent aussi, ou ils commencent à mesurer la grandeur de l'amour de Dieu, qui les a aimés tels qu'ils sont. Alors qu'ils sont par nature pécheurs. Jésus dira plus tard aux pharisiens en Matthieu 21 et au verset 31. Il dit ceci, quand il répond, il répond aux pharisiens, et puis Jésus le dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Il parle aux pharisiens ici. Et il dit, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Pour aimer le Seigneur Jésus-Christ, il faut connaître la réalité de notre péché. 14e mot. Sans la vision de notre péché, on ne peut pas voir la grâce de Dieu. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire, sans la protection de la grâce de Dieu, on ne peut pas tenir face à la révélation de l'ampleur de notre péché. Mais en acceptant ce que la Bible dit de nous-mêmes, en acceptant que nous sommes par nature pécheurs, et en venant à Dieu, en confessant notre péché, nous découvrons, comme cette femme, un Sauveur plein d'amour et de compassion. Et c'est ainsi que nous apprenons à aimer le Seigneur Jésus-Christ. À la lumière de sa grâce, nous voyons notre péché. À travers notre péché, nous voyons la merveille de sa grâce. Et tout cela, bien sûr, lorsque nous venons à la croix. À la croix du Seigneur Jésus-Christ. Réaliser l'ampleur de notre péché nous amènera à voir la magnitude, l'immensité de la grâce et de l'amour de Dieu à notre égard. Cinquième et dernier point, que nous dit ce passage? Ce passage nous dit que ce que Dieu désire, c'est notre amour, 15e mot, notre amour pour lui. Imaginez ce que cela voulait dire pour cette femme qui a été rejetée, cette femme qui a été méprisée, cette femme qui a été utilisée, qui trouve en Jésus-Christ un homme qui allait lui apporter la bénédiction et lui révéler ce qu'était vraiment le véritable amour. Imaginez ce que cela veut dire pour nous. Dieu ne veut pas notre argent. Dieu ne veut pas notre service. Il veut notre cœur. Il veut notre amour. Regardez les derniers versets 49 et 50. Il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Voilà une accusation, verset 49. « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Une accusation qui allait un jour condamner le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus ne regarde que la femme. Que cette femme qui a manifesté son amour en réponse à sa grâce. Jésus ne s'attarde pas avec le pharisien. Jésus ne s'attarde même pas avec la foule. Non, il est venu pour s'occuper de sa brebis. 16e mot. Il est venu réconforter sa brebis. Sa brebis qui va retourner. Qui va retourner dans le monde. Il lui dit, va en paix. Et Jésus réconforte cette brebis en disant, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Il y a deux catégories de gens. Comme j'ai dit, il y a un seul type de personne. Nous sommes tous endettés envers Dieu. Deux catégories. Il y a ceux qui appartiennent, 17e mot, à Christ, qui reconnaissent leurs péchés et qui viennent à Christ et qui trouvent en lui le Sauveur, qui les aime d'un amour immense. Et il y a les autres. Et Jésus dit à ses brebis, comme il dit à cette femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » C'est Spurgeon qui utilise cette illustration. Il dit, c'est, quand il parle de la foi, il dit « La foi nous sauve comme la bouche nous sauve de la faim. » Le remède contre la faim, bien sûr, c'est le pain. Mais le pain ne sert à rien si la bouche ne le mange pas. Et c'est la même chose. La foi est la bouche de notre âme. Ce n'est pas notre foi en elle-même qui nous sauve. C'est l'objet de notre foi qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Sauveur. Mais si je ne regarde pas à Christ et si je ne me confie pas en Christ, pour ainsi dire, pour reprendre l'image, si je ne mange pas Christ, ça ne me sert à rien. La foi est comme la bouche de notre âme. Comment aimer le Seigneur Jésus-Christ? Comment l'aimer encore davantage? Ce n'est pas en cherchant à réformer notre vie. Beaucoup de personnes font des efforts, surtout en début d'année, ont les bonnes intentions pour la nouvelle année, et très souvent ça ne dure pas. Mais ce n'est pas en réformant notre vie, mais en allant à Christ, 18e mot. C'est en allant au Seigneur Jésus-Christ, en confessant nos péchés et en découvrant son amour infini pour nous. C'est en lui faisant confiance et en nous reposant jour après jour sur lui que nous manifestons notre amour toujours plus grand pour lui. Notre espérance, pour reprendre le thème des enfants de la semaine dernière, notre espérance est en Christ et en lui seul. Soyons comme cette femme qui s'approche du Seigneur Jésus-Christ, qui découvre ce Sauveur plein d'amour, plein de compassion, et qui repart avec cette assurance qu'elle est acceptée, qu'elle est en paix, qu'elle connaît la paix avec Dieu, à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, et qu'en réponse à l'amour que Dieu nous a manifesté en Christ, notre amour pour lui ne cesse de grandir. Que nous ne soyons pas comme Simon, comme ce pharisien, qui cherchons simplement à évaluer le Seigneur Jésus-Christ, à le juger, mais que nous ressemblions plutôt à cette femme qui reconnaît son péché et qui vient à Christ et trouve en lui un Sauveur parfait. Que Dieu nous aide à saisir, à méditer ces choses et à vivre toujours plus dans l'amour et dans la foi dans le Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Que Dieu nous aide à comprendre et à vivre cela pour sa gloire. Amen.